Cité populaire du libre. Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Audrey Guélou et Stéphane Crozat.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission du cours WE1, écrire sur le web, donné à l'UTC par Stéphane Crozat. Alors on se lance dans une troisième session de présentation des étudiants et des étudiantes de WE1, de leurs projets qu'ils ont réalisés pendant ce cours. Alors pour rappel, dans le cours WE1, on aborde des théories qui sont relatives aux technologies du numérique et en particulier au web. On apprend aussi à se servir d'outils du web, on apprend à installer un serveur web pour mettre en ligne son propre site par exemple, et puis on se penche également sur les aspects culturels, éthiques, économiques du web dans ce cours-là. Voilà, donc tous les étudiants, les étudiantes de WE1 ont réalisé ce semestre un projet qui consiste à publier un dossier autour d'une problématique technologique du web. Et c'est un dossier qui contient, entre autres, un article collectif, des fiches de lecture et puis aussi une interview. Et donc, il y a aussi une intervention à donner à la radio. Et donc, si vous écoutiez Graphite CDS, ce début d'après-midi, vous avez entendu les voix donc de Stéphane qui était en présence des étudiants et étudiantes qui ont travaillé sur le thème du capitalisme de surveillance et puis aussi sur le thème ingénierie et vie numérique. Alors maintenant, on est avec un troisième groupe donc, d'étudiantes. Je suis avec trois étudiantes maintenant. Je suis avec Célia Lomont. Bonjour Célia.
Bonjour.
Bonjour Célia. Je suis avec Camille Josserand aussi. Bonjour Camille.
Bonjour.
Et puis, je suis aussi avec Natalia Espitia Hidalgo. Bonjour Natalia.
Bonjour.
Alors, toutes les trois, vous avez choisi de réaliser votre projet sur le thème du design éthique pour les médias sociaux. Et donc, vous êtes en studio pour nous présenter un exposé collectif à ce sujet. Alors, les autres étudiants du TD sont à l'écoute de votre intervention et puis vous poseront des questions sur le canal projet de l'équipe WE1 sur Mattermost. Et donc, je vous relayerai ces questions-là au micro. Alors, on démarre tout de suite. Célia, tu as prévu donc de nous parler en premier de quelques définitions du design éthique, du design pour les médias sociaux. Je te laisse commencer. Vas-y, Célia.
En effet, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aborder la problématique suivante. Comment le design d'un média social influence-t-il les modes de participation et le comportement de ses utilisateurs? Afin de répondre à cette question, je vous propose tout d'abord de la décomposer pour mieux la comprendre. Intéressons-nous plus attentivement au terme « design d'un média social ». Dans un premier temps, prenons la définition du design telle que proposée par l'Alliance française des designers. Le design ici est décrit en un processus intellectuel créatif, pluridisciplinaire et humaniste, dont le but est de traiter et d'apporter des solutions aux problématiques de tous les jours, petites et grandes, liées aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. On a là une définition assez large qui englobe un grand nombre de concepts. Et ici, il est intéressant de souligner l'importance du design dans la réponse à des besoins spécifiques et non par pur esthétisme comme certains peuvent le percevoir. Dans un second temps, intéressons-nous maintenant au design d'un média social. Celui-ci est omniprésent. Le design permet la communication visuelle au sein d'un média social. Et en effet, celle-ci se manifeste par les différentes formes de représentation des informations basées sur le calcul. Finalement, le design d'un média social est possible au moyen du numérique ou encore grâce à ce que Bachimon déclare l'émergence d'une raison computationnelle. Maintenant que les termes sont davantage explicités et afin d'introduire la réponse au questionnement du jour, je vous propose d'écouter un court extrait du designer Powell Pokutiski dans une conférence TEDx Erasmus University Rotterdam disponible sur YouTube sur la chaîne TEDx Talks et datant du 3 février 2020.
To quote Marshall McLuhan, we shape our tools and then these tools shape us. So the design we were once open and enthusiastic about design us back, for good and for bad. Digital innovation has been driven by the principles of usability, ergonomics, efficiency, functionality, but not so much by a deeper understanding of ethics, and specifically ethics of design. No wonder that today we struggle with large ethical problems related to technologies such as privacy violation, unjustified data collection and exploitation, lack of transparency of the tools we use.
Dans cet extrait, Pokutiski énonce différents problèmes éthiques liés aux technologies et il dénonce notamment un manque de compréhension plus profonde de l'éthique et plus particulièrement de l'éthique by design dans les innovations numériques. Innovations numériques telles que le sont les médias sociaux au cœur de notre sujet du jour. Afin de mieux comprendre ce terme d'éthique by design, je vous propose un appui sur l'article de Flora Fischer intitulé « L'éthique by design du numérique, généalogie d'un concept ». En effet, dans celui-ci, l'auteur donne différentes origines, définitions de cette éthique. L'éthique by design peut être définie comme intention éthique, une réflexion en amont du projet, comme éthique par conception, une réflexion sur l'intention, plutôt en aval du projet, ou encore comme médiation éthique, une réflexion sur l'utilisation, la relation entre le sujet et l'objet. Pour revenir à notre sujet, on peut donc s'interroger sur l'éthique d'un média social lors de sa création, de sa conception ou encore de son utilisation, et ainsi s'interroger sur son influence sur les modes de participation et sur le comportement de ses utilisateurs. Sur cette réflexion, les avis sont très partagés, car la technique, telle qu'énoncée implicitement dans la thèse technologie anthropologiquement constitutive, n'est jamais neutre. En effet, aujourd'hui ressortent de vrais enjeux et questionnements autour de l'éthique et notamment de la manipulation suscitée par les médias sociaux. Rien n'est laissé au hasard par les designers des outils numériques. Et comme expliqué précédemment, le design est utilisé afin de répondre à des besoins. Mais lesquels et pour qui ? Afin de mieux le saisir, Camille vous énoncera les actions encouragées, tandis que Natalia vous exposera les actions découragées par les médias sociaux, en exposant leurs valeurs éthiques ou non.
Merci beaucoup Célia pour ta présentation. Écoute, à partir de là, j'ai envie de te demander si tu aurais éventuellement un ou plusieurs exemples en tête d'un outil, d'une infrastructure, d'une interface, quelque chose d'existant dont on s'accorde à dire que le design est éthique en particulier. Est-ce que tu aurais un exemple de quelque chose qui aurait été conçu selon cette éthique by design ?
Je pense que de nombreux sites qui se veulent notamment libres de droit, comme tous les sites Office, Drive, etc., vont avoir un côté plus éthique. Simplement, je pense que l'éthique est un terme assez large. Et donc, on peut pas dire, nous, ce qu'est éthique ou non. Mais je pense que le fait d'être libre, d'avoir accès à certaines données qui peuvent être cachées par d'autres sites est effectivement plus éthique dans ces sites libres de droit.
Oui, merci Célia. En effet, la question de la transparence fait partie de ce concept d'éthique by design. Merci Célia. Alors, on va passer maintenant la main à Camille. Camille, donc, tu vas nous parler du design et des médias sociaux en particulier. Camille, si tu es prête, je t'en prie.
Bonjour à tous. Donc maintenant que Célia vous a introduit le design au sein des médias sociaux, je vais maintenant me pencher sur les actions qui sont dites encouragées par le design des interfaces numériques. Donc lorsqu'il s'agit de concevoir une plateforme sociale, les designers jouent un rôle crucial dans la manière dont les utilisateurs vont agir et se comporter. Certaines actions seront alors encouragées par le design même de ces plateformes. Rien n'est alors fait vraiment par hasard. Tout d'abord, je pense qu'il faut bien garder en tête et prendre en compte l'aspect marketing et économique qui est toujours présent et qui se cache derrière un design donné. Cela constituerait donc davantage un encouragement qui peut parfois être abusif et vers un certain comportement qui peut s'avérer donc néfaste pour l'utilisateur. Donc je vais m'expliquer de ce que j'entends par là. La plupart des plateformes sociales, en fait, elles incitent les internautes à utiliser le plus longtemps possible leur interface. Ainsi, il existe de nombreuses stratégies de captation de l'attention, entre autres On a la lecture automatique des vidéos, par exemple sur YouTube. On a le scrolling infini sur lequel se basent la plupart des médias sociaux, comme Instagram, TikTok et bien d'autres. Ou encore les recommandations de contenu qui nous sont proposées, notamment grâce donc aux cookies. Et donc, je vous propose d'écouter un extrait d'une interview proposée par la chaîne YouTube Vox en 2018. Donc, une interview de Tristan Harris, qui est un ex-designer en esthétique de Google, qui va expliquer en quoi les designs des plateformes sociales sont organisés de manière à nous divertir et à nous rendre addicts.
It's not designed to help us, it's just designed to keep us hooked.
So I handed him my phone and asked him how he'd fix it. It starts with turning off all notifications, except for when a real human is trying to reach you. When you get a call, a text, or a message, it's usually because another person wants to communicate with you. But a lot of today's apps simulate the feeling of that kind of social interaction to get you to spend more time on their platform. If Facebook sends you a push notification that a friend is interested in an event near you, they're essentially acting like a puppet master, leveraging your desire for social connection so that you use the app more. But notifications didn't always work like this. When push notifications were first introduced for email on BlackBerries in 2003, they were actually seen as a way for you to check your phone less. You could easily see emails as they came in, so you didn't have to repeatedly open your phone to refresh an inbox. But today you can get notifications from any app on your phone. So every time you check it, you get this grab bag of notifications that can make you feel a broad variety of emotions.
If it wasn't random, if it was predictably bad or predictably good, then you would not get addicted. The predictability would take out the addictiveness.
Que ce soit les clics compulsifs, les collections de likes, de retweets et de pop-up, tout est fait pour nous retenir le plus longtemps possible. L'extrait audio que nous venons d'écouter se concentre donc sur le flux des notifications incessants qui constitue une demande d'intervention de l'utilisateur qui vient alors disrupter l'accomplissement des tâches qu'il était en train de poursuivre. Si ce n'était pas aléatoire, mais plutôt si c'était mauvais ou bon de manière prédictive, alors on ne serait pas aussi accro. Tels sont les mots de Tristan Harris. Il est d'ailleurs très intéressant de noter qu'à l'origine, les notifications dites push, donc pour donner une définition, ce sont des messages d'alerte envoyés par des applications sur les téléphones mobiles et ordinateurs. Eh bien, quand elles ont été introduites pour la première fois, sur les BlackBerry en 2003, c'était un moyen pour les utilisateurs de vérifier ses mails sans avoir à allumer son téléphone sans cesse. Aujourd'hui, la tendance s'est complètement inversée, puisqu'en effet, on peut recevoir des notifications de nombreuses applications qui, d'une part, nous fait ressentir une grande variété d'émotions, et d'autre part, nous pousse à nous interrompre pour ouvrir les applications concernées par ces notifications. Les plateformes tirent également parti de la peur de rater une information, aussi appelée FOMO, Fear of Missing Out, dont certains utilisateurs font face. Tous les éléments de design accentuent cette peur, qui n'a jamais été titillée par la petite bulle de notification rouge vive. D'ailleurs, Geert Lovink, dans son ouvrage « Sad by Design », évoque le sentiment d'impuissance qui peut émerger face à des plateformes qui nous mènent par le bout du nez. Il met alors en avant une servitude face aux plateformes sociales. Ces dernières, designées pour rendre les utilisateurs addicts, constitueraient ainsi, au sens large, une forme de manipulation. Geert Lovink pousse alors la réflexion encore plus loin en déclarant que Google et Facebook savent comment utiliser les émotions négatives, ce qui conduit au nouvel objectif du système, trouver des moyens personnalisés de vous faire sentir mal. Finalement, si on suit cette optique, rendre les plateformes sociales addictives, c'est le meilleur moyen de les rendre rentables également. Il faut donc parvenir à distinguer les tensions entre marketing et intérêt général au sein de technologies qui peuvent être à la fois manipulatrices ou émancipatrices. Mais en tout cas, l'intention dicte les comportements que l'on va chercher à encourager.
Merci beaucoup Camille pour ta présentation. Tu nous as parlé du sentiment d'impuissance qui a été mis en lumière par Dirk Loving dans son excellent article Sad by Design. Et puis, il parle de cette forme de servitude vis-à-vis de ces éléments de design qui exploitent des mécanismes d'attention. Si on fait appel à des écrits plus anciens sur la servitude, évidemment, peut-être on va penser au discours de la servitude volontaire de la Boétie qui nous dit que pour essayer de s'extraire de cette servitude-là, il faut briser certaines habitudes et puis désirer être libre et jusqu'à désobéir et ne plus servir les tyrans. Alors si on essaie de rejoindre un petit peu ce dont tu as parlé précisément, je vais reprendre la question de Sixtine qui nous dit comment peut-on lutter à notre échelle contre la manipulation provoquée par le design des applications? Comment lutter contre ça à notre petite échelle à nous?
Déjà, je pense que déjà en avoir conscience, c'est déjà le premier pas pour pouvoir peut-être s'en défaire. Et ensuite, pourquoi pas, justement, en rapport avec la question précédente, essayer de développer des applications qui soient plus éthiques et donc qui nous manipuleraient moins, même si c'est vrai que l'éthique, c'est quelque chose d'assez subjectif et qu'on a du mal à le définir, mais je pense que ce serait une voie possible.
Merci Camille, en effet. Et tu vois, alors Anna se demandait s'il existait déjà des exemples de design qui n'encouragent pas les utilisateurs à utiliser de façon continue leur plateforme. Elle disait donc qu'ils n'encouragent pas l'addiction à un outil. Est-ce que tu sais si est-ce que tu aurais quelques exemples en tête, ou Célia ou Natalia, mais est-ce que vous auriez une idée de ce qui existe déjà comme ça d'exemples d'outils qui n'exploitent pas ces mécanismes-là? Paf. Oui, pas forcément, on va les chercher. Vas-y, c'est bon.
Alors, je n'ai pas directement d'exemple d'outils, mais je sais que, par exemple, sur nos téléphones, on peut maintenant programmer un temps d'écran, par exemple, sur une application, ce qui nous permettrait donc de réduire notre temps de visionnage de certaines choses et donc d'éviter, par exemple, un scroll infini et ne jamais s'arrêter et y passer des heures.
Merci. En effet, il existe des mécanismes de défense comme cela. Absolument. Alors, on va attaquer donc la troisième et dernière partie de votre intervention qui va être donc présentée par Natalia. Natalia, tu vas nous parler de ce que certains designs nous découragent de faire. Et donc, Natalia, je te donne la parole à toi.
Ok. Bonjour à tous. Tout comme il y a des actions encouragées par les designs des interfaces numériques, que ce soit des applications ou des outils, des objets, il y a bien sûr des actions qui vont être découragées par ces mêmes designs. Tout d'abord, je voudrais introduire trois concepts présentés par les philosophes de E. Witkower sur les designs des choses. Une affordance dessine les propriétés perçues et réelles de la chose, principalement les propriétés fondamentales qui déterminent la manière dont la chose peut être utilisée. Par exemple, sur une porte, la poignée, c'est ça afford de l'ouvrir. Disaffordance, écrit avec un i, dessine les propriétés d'une chose qui vont correspondre des sens perceptifs, visuels, sonores, etc., avec des actions impossibles ou limitées de l'utilisateur. L'exemple que le philosophe reprend, c'est la pression d'une serrure sur une porte qui est une disaffordance de l'entrée pour les gens qui ne possèdent pas une clé. Disaffordance avec un Y, c'est un sous-groupe des disaffordances qui vont dessiner un objet qui nécessite que certains utilisateurs s'identifient de manière erronée pour accéder à ses fonctions. Un exemple est celui des personnes non-binaires qui doivent cocher un genre homme-femme dans certaines plateformes. Donc, dans son texte « Design Values, Hardcoding Liberation », Sacha Constanza Schock propose d'étudier ces concepts par rapport aux médias sociaux et en particulier par rapport à l'organisation des manifestations. Organiser des manifestations d'une manière sécure pour les manifestants, que ce soit des participants ou des organisateurs, dans les pressions est compliqué en passant par un média social éthique. Et ceci est compliqué car les plateformes existantes demandent un apprentissage supplémentaire pour pouvoir les utiliser et restent donc une solution limitée. Passer par des médias populaires tels que Facebook, Twitter, qui peuvent être plus faciles d'accès et permettent au mouvement de toucher plus de monde, est donc une pratique commune. Mais ce n'est pas un choix pratique pour les organisateurs, puisqu'il y a des expositions aux agents externes qui peuvent être ennemis du mouvement, par exemple. Cette situation dans l'ensemble peut décourager à organiser ou à faire partie d'un mouvement à la vue de tous. Et donc, je voudrais maintenant vous partager un extrait audio pour introduire ma partie suivante.
this panda's dancing. And another video plays after automatically. This one of a gopher that stage turns dramatically. It's like my attention is kept systematically raptured by algorithms that know exactly what I want. Or not what I want, just what I'll watch. And the people behind this intelligent design genuinely want to better our lives. But their bonuses just so happen to be tied to keeping time on site exceptionally high. And now even my news apps have been gamified, and what am I, not gonna click that one simple sex tip guaranteed to blow her mind? Wait, where was I, and why have I forgotten to look for that thing I'm supposed to find? And my God, look at the time. It is shocking. But somehow, yes, Netflix, I am still watching. And I know. I should have more self-control. But just to be clear, you just spent $1 million telling me this story designed to cut off at the end, leaving me wanting more. See, of course I want to see what you have in store. See my cursor already waiting there on the screen floor as you tease the next hour in all of its glory. And you'll give it to me, unless I actively abort. See, it seems the decision's already made for me. The countdown clock's moving. There it goes. 5, 4, 3. I need to sleep. But you made me want this more. This is not what I consciously signed up for when I hit play on one episode 6 hours ago.
Alors cet extrait fait partie d'une des vidéos lancées par le mouvement Time Well Spent, qui est une initiative pour informer les gens sur les éléments de design des médias sociaux qui les rendent persuasifs et par lesquels le comportement des utilisateurs est influencé. Vous pourrez trouver d'autres vidéos sur YouTube et d'autres informations à ces sujets sur les sites humantech.com. Et du coup, pour répondre encore à Sixtine, il y a plein d'informations sur comment éviter de se faire influencer par les médias là-bas. Et cette initiative, elle a été lancée par Tristan Harris, ancien philosophe produit chez Google. Pour lui, un design éthique serait un design qui nous rendrait notre liberté des choix. Et donc, parlons de ce qui impacte cette liberté des choix. Personnellement, je me suis sentie identifiée avec le personnage et l'extrait présenté. Plus d'une fois, j'ai été dans cette position de me dire, en fait, ce que je suis en train de faire, que ce soit scroller sur une application ou regarder un autre épisode, c'est pas ce que j'aurais voulu faire. Et ce n'est pas une coïncidence. En effet, les designs des interfaces numériques ont une grande influence sur les actions des utilisateurs. On a déjà parlé des actions encouragées par certains éléments, et c'est souvent ces mêmes éléments qui vont décourager des actions qui ne seraient peut-être pas dans l'intérêt des détenteurs de ces interfaces. On trouve des exemples très simples dans notre vie numérique quotidienne. Les annonces pour les cookies en visitant un site web qui te décourage à refuser en mettant une annonce au milieu de l'écran, avec un bouton tout petit sans couleur, des fois même dans une fenêtre supplémentaire. Des réglages de certaines applications pour la confidentialité des données ou les accès à la localisation, les contacts, les informations qui ne sont pas accessibles dans les réglages de base sur les paramètres de l'application. Les conditions des ventes, les termes à conditions pour des achats ou des services qui sont présentés dans un menu pas ergonomique et inconfortable pour l'utilisateur, avec une police petite, un menu supplémentaire ou quelquefois avec un PDF à télécharger, qui va donc être découragé, l'utilisateur va être découragé à les lire. Un autre exemple serait la rapidité des menus ou des interfaces pour continuer à capter notre attention, tels que le contenu audiovisuel, lancer un contenu automatiquement sur, par exemple, YouTube ou des plateformes en streaming, ou avec les scrolls infinis sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Ceci nous décourage à quitter ces plateformes. Et donc, de par la force de ces éléments de design, qui sont basés sur la psychologie du comportement humain, l'utilisateur va être découragé à sortir de ses comportements souhaités par la plateforme et va préférer de juste suivre les influences.
Merci beaucoup, Natalia, pour cette troisième partie. Alors, j'ai une question à propos de la méthodologie de ces designers qui veulent faire du design éthique. Je voudrais te demander si tu sais comment ces designers travaillent et comment ils font pour savoir qu'ils font véritablement du design éthique et qu'ils préservent la liberté de choix dont tu as parlé. Est-ce que, par exemple, ils ont des méthodes pour recueillir les avis des utilisateurs justement qui seront concernés en premier lieu? Est-ce qu'ils travaillent tout seuls en cercle fermé? Est-ce que tu sais un petit peu comment ça se passe?
Et bah, du coup, j'ai juste des informations par rapport à l'initiative qu'il avait présentée sur le Time Well Spent. En fait, ce que Tristan Reis y soutenait, c'est qu'il a commencé à se poser des questions sur ça parce qu'il trouvait un peu injuste le fait qu'il y ait peu de designers, on va dire, peu de sujets qui décident de comment les autres utilisateurs auraient, des milliers et milliers d'utilisateurs allaient passer leur temps. Et donc, ce que lui, il propose, c'est de... déjà d'une part faire une sorte d'éducation pour les utilisateurs sur le comment autres plateformes font, en même temps de recueillir, comme vous dites, des avis sur d'autres utilisateurs, mais aussi de proposer d'autres types de comportements à designer. Par exemple, ce qu'ils proposaient, c'était que il y a beaucoup de gens qui vont venir allumer leur téléphone quand on se réveille. Et en fait, au lieu d'avoir les notifications, ça va te lancer, par exemple, une application pour appeler quelqu'un qui va faire, enfin, qui se réveille en même temps que toi, pour faire une connexion entre les humains, au lieu de faire des notifications ou d'être addict à un appareil, par exemple. Du coup, c'est aussi de proposer d'autres manières d'interagir avec les mêmes outils.
D'accord, merci Natalia pour cette réponse très claire. Alors, j'ai une question de Billy qui arrive là sur Mattermost. Alors, je vais l'adresser à toutes les trois. C'est une question pas facile, mais intéressante. Billy se demande où se situe la limite entre le légal et l'illégal dans la manipulation utilisée dans certains designs. Est-ce que les designers ont une liberté totale sur ce qu'ils peuvent faire et à quel point ils peuvent manipuler leurs utilisateurs, ou bien est-ce qu'il existe des lois qui encadrent ces mécanismes-là? Est-ce que vous avez entendu parler de ça aussi? Un petit peu extérieur à vos recherches. On se regarde, c'est vrai. Non, c'est pas évident. Billy, écoute, c'est une très bonne question. Célia, tu prenais le micro, as-tu envie d'essayer quelque chose?
Je dirais que, comme dans tout le monde numérique, bien sûr, il y a des lois, et donc il y a des lois également sur le design. Ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent non plus. Il y a toujours des choses à afficher. Mais par exemple, pour reprendre l'exemple, ils vont être obligés de nous afficher des conditions d'utilisation, mais ils vont s'arranger pour les mettre en plus petit, pour les mettre de telle façon à ce que nous ne les voyons pas. Et donc, en soi, ça reste légal, mais ça reste un petit peu une manipulation, oui, certes.
Merci Célia. En effet, il y a des lois qui sont parfois un petit peu contournées, des biais qui sont... parfois, on va jouer avec, mais il existe en effet des lois comme celles que tu viens d'expliquer. Eh bien, toutes les trois, je vous remercie beaucoup pour votre présentation. Bravo à vous. Vous pouvez réécouter, on peut réécouter toutes les interventions des étudiants de WE1 en podcast sur graphite.net et puis plus tard sur l'instance Peertube aperi.tube, ce sera sur la chaîne Upload. Eh bien, si vous êtes curieux et curieuse maintenant d'aller voir ce que l'on apprend en WE1, vous pouvez venir faire un tour sur librecours.net pour retrouver tous les supports de cours. Et puis, bien sûr, aussi, les dossiers des étudiants seront mis en ligne, sont déjà en ligne. Donc, voilà, si vous souhaitez aller voir tout ça, c'est tout disponible. On va se retrouver dans quelques instants pour écouter ensuite la présentation du quatrième et dernier groupe d'étudiants de la journée. Ce sera à propos des pratiques de modération sur les médias sociaux. Merci encore à toutes les trois et puis à tout à l'heure.
Merci.
Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Audrey Guélou et Stéphane Crozat.